C'est une grande enquête réalisée par Elab pour le Cercle des économistes qui bouscule peut-être certaines idées reçues sur la jeunesse. Par exemple, on dit souvent c'est la génération de la flemme. Mais pas vraiment, c'est plutôt une génération, les 15-29 ans, assez ancrée dans le réel et justement peut-être trop dans le réel. C'est pour ça qu'on a une génération qui parle de stress, d'anxiété. Par exemple, 30% des jeunes interrogés déclarent avoir des problèmes de santé mentale de manière permanente ou régulière. Le sentiment d'isolement est central dans leur détresse. 64% des jeunes interrogés se sont déjà sentis seuls. 29% considèrent que c'est un problème permanent. C'est pas rien quand même. Et puis c'est une jeunesse aussi qui est en proie à des addictions. 34% déclarent avoir déjà une addiction, alcool, tabac, drogue. Les plus jeunes ne sont pas épargnés, les 15-17 ans. Alors que fait-on de ce résultat? Est-ce que vous le constatez vous-même? Certains d'entre vous, vous avez des enfants, des petits-enfants. Est-ce que vous sentez beaucoup d'angoisse et de stress chez les jeunes habitants?
Moi qui suis engagée auprès des jeunes dans l'insertion, et y compris ruralité et quartier, je peux vous dire que c'est un vrai phénomène. C'est un le sentiment d'isolement, d'échec, d'absence de perspective, de santé mentale, de rupture souvent avec la famille, de violence. Il est à chaque fois prégnant et il explique justement cette sortie de route, sortie du système scolaire, etc. Et dans la ruralité, c'est particulièrement présent. Et c'est pour ça qu'avec une équipe, on est beaucoup sur le terrain auprès de ces jeunes et moi en particulier depuis de très nombreuses années. Mais regardez le phénomène de ce qu'insuffle la classe politique. C'est quand même, faut quand même s'y pencher un peu. D'abord, il n'y a pas que les jeunes qui sont dans cet état. Moi, pour être dans cette tribu avec presque 8000 personnes où on échange beaucoup et pour être bien au fait des réseaux et parler avec beaucoup de gens, puisque je suis quelqu'un de très très sociable et très proche des gens, il y a un phénomène de à la fois d'isolement et puis de perte de confiance, de perte de perspective. Mais la classe politique, elle donne le ton. Moi, personnellement, je vais vous dire ce qui me manque. Il manque pas un plan avec des détails, on va faire ci, parce que ça viendra après. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'espoir, il nous manque un cap, un horizon, quelque chose qui nous dit on y va et ça va aller mieux parce qu'on va faire ce qu'il faut. Tous les jours, on nous dit ça va pas, ça va mal, y a plus de sous, y a plus de perspective, tu montes ta boîte, tu la coules, la santé mentale ça va pas, l'école ça va pas, les soignants ça va pas, la police ça va pas. Tous les jours, ça va pas. Tous les jours, ça va pas. Et la classe politique, le président de la République, c'est la guerre. Pendant le Covid, c'est la guerre. Vous vous rendez compte? Nous entrons en guerre. Le Covid a marqué un tournant incroyable dans l'anxiété des jeunes. Moi, particulièrement dans mon entourage, je connais une gamine qui, depuis le Covid, elle est en dépression profonde. C'est-à-dire qu'elle a atteint le handicap. Donc, quand les adultes ne sont plus capables d'avoir du courage, d'avoir de l'espoir, de tracer un chemin et de montrer que quelque part on peut s'en sortir ensemble, mais qu'il y a quand même une possibilité avec un peuple debout de faire quelque chose, eh ben croyez-moi que ça fait une autre différence. Sauf que tous les jours, ces oiseaux de mauvais augure nous annoncent toujours les trucs les plus plombants. Et donc les jeunes, en plus, ils ont TikTok, ils ont les réseaux, ils ont les fake news, ils ont le complotisme, ils savent même plus où est la bonne ou la mauvaise information. On leur dit, de toute façon, c'est même plus la peine d'aller à l'école, parce qu'il y a l'IA. De toute façon, l'IA va balayer tout le monde. Au lieu de leur dire qu'il y a un outil qu'est l'IA. L'IA, c'est comme un stylo, c'est comme un cahier, c'est comme Google. C'est extrêmement important ce sondage, parce qu'il raconte comment va notre société.
Joël Dagosséry.
J'ai fait un tunnel, pardonnez-moi, mais c'était important.
Tu as fini juste à la sortie du tunnel.
Exactement, voilà, timing parfait.
Joël, c'est jeune. Alors toi déjà,
je suis jeune.
Tu es resté jeune dans ta tête, tu as une fille qui est ado.
Une fille qui est ado, qui va avoir 16 ans. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle avait un niveau de conscience qui est arrivé bien plus tôt que de ma génération.
À son âge.
Ouais. Je me souviens déjà, donc la première chose qui m'a quand même interpellée, c'est à 8 ans, je crois, elle rentrait de l'école et elle était très angoissée à l'idée qu'on n'ait plus d'eau donc sur la planète dans 20 ans ou 25 ans. Et donc tous les jours, alors je pensais que je sais pas si c'était un enseignement à l'école,
c'est vrai. Parce qu'il fait de la doctrine
voilà.
à la
con. Elle angoisse son loi, elle coule trop.
Pendant des mois et des mois, elle me dit est-ce que maman, c'est vrai qu'on n'aura plus d'eau dans 20 ou 25 ans? Ou alors fais attention, on n'aura plus d'eau dans 20 ou 25 ans. Donc déjà, ça c'est des préoccupations. Enfin à 8 ans, tu t'occupes pas de ça. Donc ça,
ça s'appelle de l'endoctrinement.
Ça veut dire
qu'on fait porter sur nos jeunes des angoisses adultes quoi.
Bien sûr, puisque il faut maintenant les éduquer à l'écologie et je ne sais quoi.
On n'est pas obligé de leur faire peur.
Les discours en France sur les problèmes sont assez alarmistes. Hein. C'est pas des choses qui sont qui t'apaisent. Hein. C'est plutôt alarmiste. Ensuite, là, elle a grandi. Donc à l'école, elle a commencé à être un peu angoissée. Donc sur les notes, bon, elle était dans un collège qui était très concurrentiel entre guillemets, et donc c'était très l'angoisse sur les notes, sur les machins, etc. Parce que s'il y a un discours, moi j'ai fait des conseils de classe en tant que parent d'élève. Le discours des professeurs, c'est t'as l'impression qu'ils jouent leur vie là en cinquième ou en quatrième. Tu vois?
Comme si tout allait se jouer
là. Mais des fois tu les entends parler, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Moi j'ai une prof qui m'a appelée un jour parce que ma fille avait des difficultés. Elle a des difficultés orthophoniques. Maintenant ça va mieux, mais elle m'a dit, elle est en quatrième. Qu'est-ce que vous allez en faire, madame? Je dis, mais attends, elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Et c'est des discours qu'ils tiennent aux élèves. Donc il y a déjà ça. Ensuite c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, avec cet esprit de comparaison qu'on a, nous, les adultes, hein, mais ils l'ont aussi, les enfants, en comparant la vie des autres. Ah bah oui, tu vois, celle-là, elle est géniale, celle-là, elle est belle, celle-là, elle est mince, celle-là, elle est grosse, celle-là, machin. Et donc, ça vient de l'angoisse. Et puis, ils sortent moins. Moi, j'ai dû forcer ma fille à un moment.
C'est une génération qui reste à la maison,
exactement.
Les réseaux sociaux.
Elle se revendiquait
dehors,
comme casanière. Là, ça va mieux. Elle sort pas mal avec ses copines. Mais pendant, moi, ça m'inquiétait parce que moi, je voulais tout le temps sortir. Moi,
mon truc,
c'était demander comment signer une autorisation entre guillemets sur papier pour mon père pour qu'il me laisse sortir. Ouais. Elle, je dois lui dire, mais sors un peu, etc. Ouais. Donc. Il y a aussi ça, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir une vie sociale tout en étant à la maison parce que, bah oui, il y a Snapchat, il y a WhatsApp, il y a machin. Donc, ça, c'est assez compliqué. Et puis, t'as le harcèlement scolaire. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une génération qui est pas gâtée.
Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, nous, adultes?
Tu as fait raison. Le discours politique, franchement, vient pas aider.
Pardon, mais les grands débats.
La préoccupation, c'est les retraités.
Les grands débats, c'était la retraite.
Et là, maintenant,
c'est la fin de vie. Vous avez vu?
Exactement.
Et alors, avec une urgence, il faut à tout prix voter un truc sur la fin de vie.
Jeunes,
c'est vrai que c'est une urgence.
Les jeunes et la famille, pareil, t'as vu?
Rien. Alors, la famille, elle est en grande souffrance. Elle est absente des débats et des discours.
Mais vous savez pourquoi aussi? Parce que les jeunes votent moins. Donc,
le politique,
c'est une part de marché. La part de marché, c'est les vieux. Fin de vie. On parle du sujet qui intéresse les personnes âgées. Donc, fin de vie, retraite.
Le politique, sa mission, c'est paradoxal d'aller. Parce qu'on nous dit qu'il y a la natalité est en berne.
Ah bah oui.
Et à côté de ça, on veut pas parler aux jeunes. Alors, il faudrait savoir.
Si vous entendez monsieur Lecornu ou les autres, ceux qui sont au pouvoir, même Emmanuel Macron, on pensait qu'en mettant au pouvoir un président jeune, bien justement, la jeunesse se rend avant.
Il y a pas longtemps,
Emmanuel Macron déjà. S'exprime plutôt comme
à moins de tel âge, on leur interdit.
Voilà. Le seul truc qu'on leur dit, c'est il faut pas faire ça. Donc c'est dont l'interdiction.
Au lieu de les éduquer à ça. Dans toute la liste d'addictions que t'as fait, moi je pense qu'il y a celle-là quand même qui a changé. La différence entre les jeunes, t'as dit l'étude 16-25, 15-29 d'aujourd'hui ou 15-29 d'il y a 30 ans. Pour moi, il y a un vrai changement, c'est l'addiction à l'écran. L'addiction à l'écran, et du coup, qui consomme le temps de l'insouciance, le temps de la
relation aux autres.
Ouais, mais le temps à l'ennui, tu vois. Un gamin de 2 ans, ses parents lui foutent un portable dans les mains pour l'occuper, pour être tranquille. Et quand tu demandes à ce même gamin, quand il a 7 ans, 8 ans, pourquoi il a tout le temps un écran à la main? Parce que sinon, il s'ennuie. Je pense que quand moi j'avais 7 ans et 8 ans, on jouait,
on s'ennuyait parfois.
Et on avait ce temps à l'ennui. Et il y a eu tout ce temps, un peu pré-adolescence, de l'insouciance, voire adolescence, de l'insouciance. Et c'est ce système d'angoisse qui rentre très tôt dans la vie des enfants, à mon avis, il est un peu lié à ça. Et après, moi, ce que je veux dire, c'est pas inéluctable, ça.
Oui.
Moi, j'ai 2 gamins qui sont super bien dans leur vie. Le ch'ti, il vit de son sport et de sa passion. Je peux te... Enfin... peut-être il me cache des choses, mais moi je crois pas que c'est un sujet à la déprime.
Alors, je voudrais qu'on donne la parole au 32-16 parce qu'on a des appels et notamment des parents qui nous appellent, comme Gaël du côté de la Dordogne. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Vous avez deux enfants, deux garçons, c'est ça, deux ados?
Ouais, tout à fait, ouais, deux ados, ouais. Et effectivement, bah, ça fait un peu peur parce que, moi, je vois, pour prendre exemple, nous, comme on disait, à notre époque, on voyait nos parents, moi, il y avait que mon père qui travaillait. Bah, il travaillait beaucoup, il trimait, il faisait des heures, mais par contre, il avait sa maison, on partait en vacances, on faisait des choses. Et là, malgré tout, il voit bien que nous, on travaille, ma femme travaille, je travaille. Malheureusement, on a du mal à s'en sortir, comme beaucoup de Français, je pense. On a quand même, on leur offre ce qu'il faut. Mais je pense que c'est hyper anxiogène pour eux, quoi. Le grand, il a commencé la marine pour faire l'école de sous-officier. Le général est venu lui parler et quand il a fait le discours, bah, deux semaines après, mon fils m'a appelé et m'a dit non, je veux rentrer, papa. Ça fait trop peur. La guerre, ça fait peur. Mon ado de 17 ans, là, il va passer le bac. Bah, il sait pas quoi faire derrière. Comme il me dit, je vais faire quoi comme boulot? Il y en a, ils ont des diplômes. Ma sœur, elle a un bac plus 5. Elle a pas non plus une paye de 5 ou 6 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'ils ont peur de tout ça, quoi. Alors, pour les écrans, oui, je suis d'accord aussi. Mais je pense que c'est un refuge quelque part. Vu qu'il y a.
Ouais, mais à travers ça, on les fait rêver aussi, hein. Enfin, je suis désolé. Oui, ramener une paye de 5-6 000 euros qui fait rêver vos adolescents à l'époque de nos parents, voilà quoi. C'est, des salaires comme ça, ça existait, mais ça faisait rêver personne parce que c'était très rare. Aujourd'hui, oui, les gamins, ils veulent être footballeurs ou influenceuses, quoi.
Mais on pouvait vivre quand même. Vous voyez, quand je dis, par exemple, nous, on pouvait faire des choses.
Moi, je comprends.
Non, mais il y a le sentiment qu'on vivra moins bien que nos parents ou nos grands-parents.
Avec le peu d'argent qu'on avait, il a construit sa maison, personne l'embêtait, il a agrandi.
Oui, mais j'ai compris ce que vous dites.
Il y avait des règles, mais bon. C'était moins strict.
Alors après, il faut positiver aussi, Gaël, ce que aujourd'hui le monde moderne nous apporte. On peut plus facilement voyager. On a aussi, on est en meilleure santé. Il y a aussi beaucoup d'opportunités. Il y a des nouveaux métiers, etc.
On peut voir les choses, de manière positive.
On peut voir les choses de manière positive.
Chez moi, les gamins à 11 ans, ils descendent à la mine. Hein.
Voilà.
Donc ça va mieux.
Il y a 100 ans, les gamins, ils descendaient à la mine à 11-12 ans. Hein.
Je vous rassure, moi, à 12 ans, je portais des sacs de ciment qui, à l'époque, faisaient 50 kilos. J'imposerais pas ça à mes enfants, mais on l'a fait, mais on trimait, et on trimait pour quelque chose. Derrière, on avait quand même un espoir.
Le travail, je suis d'accord, Gaël, que le travail paye peut-être moins, mais il paye encore. C'est-à-dire qu'il faut quand même tenir ce discours-là.
Le physique, comme vous le décrivez, il existe quasiment plus.
C'est juste que les choses sont moins linéaires qu'avant. C'est moins, je sors de l'école, j'ai mon CDI, j'y reste 20 ans ou 23 ans ou 30 ans, et puis j'achète ma maison, etc. Là, ils vont devoir faire preuve de plus d'ingéniosité, et ils ont de la chance, c'est qu'ils ont des outils pour les aider à ça. Nous, des outils que nous, on n'avait pas. Donc, moi, je te dis qu'il va y avoir deux catégories de jeunes. Il y a ceux qui vont très vite comprendre qu'il y a des chemins de traverse, qu'il y a les outils, il faut s'en emparer. Et puis, tu as ceux qui vont peut-être essayer une voie assez classique, et vu comment la France se comporte aujourd'hui et comment elle se porte, ça va être compliqué. Voilà, c'est tout.
Mais tu vois, Joël, ça a toujours existé. Mais ce que tu décris, c'est les attentistes qui attendent que ça tombe, et puis ceux qui se prennent en main, qui font les choses.
Non, mais je pense que, puisqu'on va rentrer en période de campagne présidentielle où nos responsables politiques vont faire de belles déclarations, de belles promesses, je pense qu'il faut arrêter avec les discours anxiogènes. Il faut faire des discours. Il
ne
faut pas raconter n'importe quoi, il faut dire la réalité. Mais les discours anxiogènes sur la guerre, la guerre va arriver, la guerre est à nos portes, que tient par exemple le président, et c'est une façon de gouverner par la peur, bon, très bien, mais que tiennent sur les plateaux télé des militaires et autres. Et puis l'autre discours sur le climat. Non, on va trouver des solutions, on va s'adapter. L'homme est toujours là parce qu'il s'est adapté.
Et puis la classe politique, elle ignore quelque chose, comme elle est complètement déconnectée des Français, c'est qu'elle n'est pas inapte à l'espoir, elle n'est pas inapte à la mobilisation, et elle n'est pas sourde à la nécessité, à la réalité, à la nécessité de se retrousser les manches ensemble. Moi, je le vois bien parce que les gens, une lueur d'espoir, ils viennent. Parce qu'ils ont besoin de ça. On a besoin de ça pour construire quelque chose, à la fois pour nous et pour nos enfants. Et la classe politique, elle a l'impression qu'elle va vivre, qu'elle va mieux vivre sur, comme dit Olivier, sur la guerre, sur la peur, etc. Or, tout faux. Elle a rien compris. Le peuple attend autre chose. Et c'est une réalité. Mais sans être démago, exactement. Ça, la
sans
réalité.
Des choses
non, mais ça veut dire que tu peux combiner la réalité et l'espoir. Voilà.
Mais
c'est
pourquoi,
ça.
Pourquoi tu vas avoir, je te disais, ces deux catégories de jeunes? Parce que tu vas avoir aussi deux catégories de parents. On peut plus se reposer sur l'État. Moi, par exemple, je me repose pas sur l'État. Je sais que l'État n'est pas en capacité de
te dit qu'il est mieux que toi.
Mais même dans l'instruction, je sais qu'il est défaillant. Et donc, tu as des parents qui sont avertis, qui connaissent à peu près comment. comment le monde évolue, les nouveaux outils, et qui vont transmettre ça à leurs enfants. Moi, ma fille, je la tiens au courant de mes découvertes sur l'IA, etc. Et des fois même en pratique ensemble. Et t'as des parents qui peut-être sont moins avertis et du coup qui vont plus dépendre de l'État et de ses moyens, et où il va y avoir du coup une grande cassure. Voilà raison. Ce qui va se passer. Et tu vois, quand les jeunes s'intéressent à l'actualité, par exemple, à chaque fois que ma fille s'intéresse à l'actualité, ce qu'elle me rapporte quand elle rentre à la maison des jeunes, elle est rentrée, elle m'a dit, ah, c'est vrai que Macron, il veut interdire les réseaux sociaux. Et puis, une autre fois, elle est rentrée, elle m'a dit,
on a un président qui a quoi? Qui a pas 40 ans, mais qui a 70 ans dans sa tête.
Voilà, c'est vrai qu'on veut réduire les vacances, éduquer
aux réseaux sociaux.
Donc, en fait, ça, c'est la vraie
question. Que des nouvelles.
Les réseaux sociaux, ça plaît aux vieux, hein. Ah, ben, les vieux, ils sont tous d'accord. Mais de toute façon, on a un discours, pardon, de vieux, tenu par des jeunes. Et Sébastien Lecornu, il est pas très vieux non plus, hein. On est censé être.
Regarde ses pulls.
Et ceux qui arrivent, Gabriel Attal et Jordan Bardet, là, qui sont jeunes, mais ils tiennent aussi des discours.
Mais c'est parce que leur ambition, c'est de faire vieux.
Mais c'est que un jour, il y en a un qui va se lever. Un jour, il y en a un qui va se lever, qui va parler aux jeunes, et tu verras qu'il sera élu. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils ne vont pas voter.
Mais
ils s'en foutent. Mais le jour où il y en a un qui leur parlera, ils vont voter pour lui.
On en connaît un où c'est le vent, qui s'appelle Jordan Bardella, oui, et qui a l'âge des... Non, mais on dit ce qu'on veut.
Oui.
Et on dit ce qu'on mais veut.
Je trouve que son discours est assez vieux aussi.
Il est devenu.
Je trouve qu'il parle comme Chirac maintenant.
Ouais,
j'entendais, je me dis, Chirac est de retour.
Et d'ailleurs, quand on regarde la classe politique, personne ne parle aux jeunes. C'est la folie, quoi. C'est inquiétant parce que on nous fait un plan sur la natalité, puis après, on méprise totalement la génération de jeunes. C'est incompréhensible.
Vos jeunes sont-ils angoissés, stressés? On a posé la question sur le compte X des grandes gueules. Et vous avez répondu, c'est assez partagé, mais quand même, c'est oui à 54,3%, non à 45,7%. Tout le monde ne s'est pas retrouvé dans cette étude.